Morning Edition from NPR News.
Nancy Kingston in the house.
Halliam Radio Rosana Piperis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter, le 18-20. Christelle Rebière.
La furie vengeresse du cartel d'El Mencho au Mexique après la mort du parrain. Le Mexique a dû déployer 10 000 soldats pour établir le calme. Nous verrons quelle est la spécificité du plus gros cartel mexicain, une multinationale de la drogue, mais pas seulement. C'est aussi une organisation quasi militaire. La France qui prône l'indépendance vis-à-vis des États-Unis est-elle en train de rallier les pays d'Europe les plus atlantistes? Frédéric Saïs remettra le monde à l'endroit. 4 ans de guerre en Ukraine et au lendemain de notre édition spéciale à Kiev. 2 illustrations ce soir encore. Le reportage d'abord nous emmène en Serbie, où de jeunes Russes, artistes, restaurateurs, chefs d'entreprise ont choisi de s'exiler.
En Russie, depuis 2022, vous cherchez juste à éviter d'être envoyé en prison.
Reportage signé Louis Seyer. Volodymyr Zelensky exige aujourd'hui une date claire pour l'adhésion de son pays à l'Europe. Et Caroline au pays des 27 suit justement l'un de ceux qui s'occupent de ce dossier. Enfin, dans Sous les radars, des drones pour traquer ceux qui portent atteinte à l'environnement en Angleterre et l'esthétique cowboy plus que jamais in aux États-Unis. Voilà, vous avez le programme. C'est le moment d'entamer notre tour du monde.
La chose la plus importante, c'est de protéger la population, de protéger les personnes, de protéger le public, de protéger les entreprises, et ainsi de suite. Et c'est ce qui a été fait.
La mort du baron de la drogue au Mexique et des scènes de violence, 250 barrages routiers avec voitures en flammes, commerces pillés, banques attaquées, 10 d'États paralysés. Il a fallu fermer aussi des aéroports. Au moins 25 membres de la garde nationale ont été tués. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, que vous venez d'entendre, a dû déployer 10 000 soldats pour protéger la population des représailles du cartel de Jalisco Nouvelle Génération après la mort d'El Mencho, le redouté Nemesio Oseguera Cervantes, 59 ans, qui pratique l'ultra-violence et dont le commerce illégal rapporte des milliards de dollars. C'est le coup le plus dur porté à ce type d'organisation depuis l'arrestation d'El Chapo en 2016. Mais ce cartel est aussi le plus puissant et le plus redouté du Mexique. Bonsoir Romain Lecourt, Grand Maison.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur expert pour le think tank Global Initiative. Alors, vous avez beaucoup étudié ces cartels. Avez-vous été surpris par la puissance de ces représailles après la mort d'El Mencho?
Malheureusement, non. Les pratiques qu'on a vues ces derniers jours, qui consistent à déployer de façon très rapide des hommes armés dans les villes ou sur les axes routiers pour ensuite prendre le contrôle de gros engins, que ce soit des bus, des camions, des engins de chantier, de les mettre en travers de la route et de les incendier pour bloquer la circulation, bloquer le passage de la population ou des forces armées, est malheureusement monnaie courante de la part des organisations criminelles au Mexique depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est une réaction malheureusement assez classique.
Et c'est une façon de défier les autorités et de montrer sa puissance ?
C'est une façon de faire absolument ça, de défier les autorités, de montrer sa puissance, mais c'est aussi une façon assez peu chère en réalité, assez facile à mettre en place, d'envoyer un signal extrêmement puissant à la population, aux autorités, de montrer que vous êtes présent dans plusieurs endroits en même temps. C'est notamment ce qu'arrive à faire très bien le cartel Jalisco Nouvelle Génération.
On va y venir. Alors justement, ce cartel, il est considéré comme le plus puissant au Mexique, c'est vrai ?
Le cartel est probablement l'un des plus puissants ou le plus puissant au Mexique, effectivement. C'est surtout une organisation qui est intéressante dans sa différence par rapport à d'autres organisations mexicaines, je dirais.
C'est-à-dire, alors expliquez. D'abord, on va commencer par ses activités.
Tout
Quelles
à fait.
Sont ses activités ?
Alors, les activités sont liées un peu à la nature de l'organisation, mais aussi à la... au développement, je dirais, moderne, contemporain des organisations criminelles mexicaines qui, à la différence de ce qu'on peut imaginer ou de l'imaginaire collectif qui les pense ne faire que du trafic de drogue, de la production et du trafic de drogue, organisations, voilà, non seulement ils en fabriquent, donc des drogues de synthèse, ce soit de la méthamphétamine, du fentanyl, ils trafiquent de la cocaïne, mais ce sont des organisations qui sont aussi très mafieuses dans leur comportement, et qui, ce qui leur permet de prendre le contrôle d'autres activités, qu'elles soient licites ou illicites. L'extorsion au transport, aux marchandises, au commerce, aux commerçants, l'extorsion aux migrants, au trafic de migrants, aux passeurs de migrants, ou simplement au déplacement de population, et la prise en main de plusieurs activités licites, que ce soit du BTP, et ensuite d'activités illicites, du blanchiment, etc. Donc vous avez un portefeuille d'activités criminelles très vaste.
Donc c'est très, très large, en fait.
C'est très large. Imaginez davantage qu'une organisation trafiquant de la drogue traditionnelle, ouais. Une mafia.
C'est ça, c'est une vraie mafia. Et on parle de revenus annuels qui sont estimés à des milliards de dollars.
C'est probablement vrai. C'est très dur à mesurer, mais c'est probablement vrai.
C'est une multinationale ?
Alors, c'est une multinationale, absolument. C'est une des spécificités du cartel de Jalisco, qui, contrairement à ce que son nom l'indique, n'est pas uniquement basé dans l'État du Jalisco au Mexique. C'est une organisation qui s'est développée. Voilà, c'est le point de base. Et c'était notamment un des fiefs du Mencho, donc le leader qui a été assassiné. Mais c'est une organisation qui a très bien développé un concept, si vous voulez, de franchise criminelle. C'est-à-dire que pour se développer, pour travailler dans différents endroits, au lieu de vous développer localement, vous cooptez, vous absorbez, vous menacez. Toujours est-il que vous créez des cellules criminelles qui existaient déjà dans les endroits et qui prennent la marque, si vous voulez, du cartel Jalisco Nouvelle Génération. Et grâce à ça, vous avez une organisation qui est aujourd'hui implantée probablement dans tous les États de la République mexicaine, mais aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud,
aux États-Unis,
au Canada, évidemment, et qui gère aujourd'hui des réseaux qui sont très mondialisés. Et c'est ce qui fait, je pense, la spécificité de cette organisation aujourd'hui.
Alors, comment ce cartel est-il infiltré dans la société mexicaine ? On parle de 20 000, 30 000 membres. Qui sont ces gens et comment sont-ils recrutés ?
Alors, encore une fois, si vous partez du principe que c'est une organisation à la fois très pyramidale et très décentralisée à travers ce fonctionnement un peu de franchise qui sont dispersées un peu partout. Il faut penser qu'à l'intérieur d'une organisation criminelle comme celle-ci, vous avez des gens entre guillemets très puissants, très importants, des gens dont le métier est de se battre, de porter des armes, etc. etc. Mm-hmm. Il y a des gens dont le métier est de se spécialiser dans le blanchiment d'argent, il y a des avocats, il y a des comptables, et aussi il y a également plein de gens qui font des tâches très subalternes et qui collaborent de près ou de loin avec l'organisation criminelle. On peut pas, il ne faut pas imaginer une structure, disons, salariée de 20 000 hommes où exactement on sait qui fait quoi à toute heure du jour et de la nuit. Il y a une partie de l'organisation qui fonctionne comme ça, c'est certain, mais une autre partie est beaucoup plus lâche.
On dit aussi que c'est le cartel le plus violent, le plus redouté. En 2019, il a fait déposer 35 cadavres sur une route. C'était un petit peu considéré à ce moment-là comme son premier fait d'armes. Il n'hésite pas à faire des exécutions publiques. Il met en scène ses crimes sur les réseaux sociaux.
Alors, je ne sais pas si c'est le cartel le plus violent. Malheureusement, il y a une compétition pour être le plus violent au Mexique qui dure depuis très longtemps. Mais comme vous l'avez bien dit, je pense que c'est une des organisations les plus militairement organisées et qui a un visage paramilitaire très assumé. C'est une des organisations qui, je pense, le communique également le mieux sur son aspect paramilitaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la presse. Il y a énormément de vidéos ou de photos sur la construction paramilitaire du cartel. Mmh. Et c'est une organisation qui n'a jamais hésité à utiliser des méthodes qui étaient très peu vues auparavant. C'est notamment la première organisation, en tout cas rapportée, qui a utilisé par exemple un lance-roquette contre un hélicoptère de l'armée mexicaine il y a quelques années, ce qui était inédit au Mexique. Mmh. Donc vous avez une structure qui est encore une fois très militarisée, très paramilitarisée, et qui a notamment créé des commandos d'élite à l'intérieur du cartel pour mener certaines opérations, etc. etc. Donc vous avez une vraie spécificité autour de Jalisco Nouvelle Génération.
Je vous propose de partir tout de suite au Mexique et rejoindre notre correspondante Gwendolina Duval. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct dans le fief d'El Mencho à Guadalajara. Vous avez couvert ces représailles du cartel. Quelle est la situation ce soir, Gwendolina ?
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, la vie a repris son cours à Guadalajara, presque normalement, je dirais. Dans la capitale du Jalisco, dès ce matin, on ne voyait presque plus les traces de ce qu'il s'est passé ce week-end. Même quand on passe sur la route là où des camions avaient été incendiés pour faire des barrages et bloquer l'entrée de la ville, il n'y a plus rien. Mm-hmm. Les services de la ville ont dégagé et nettoyé les rues. La circulation a repris comme à la normale. La plupart des commerces qui étaient restés fermés pendant 2 jours ont ouvert à nouveau leurs portes. Les habitants sont sortis, ils ont repris leur travail, non sans une certaine angoisse, vous disiez certains tout à l'heure. Une femme qui tient une épicerie au bord de la route... Au bord d'une route fréquentée, m'a confié qu'elle sursautait au moindre bruit et à chaque passage de moto. Donc, même si de nombreuses manifestations et événements avec du public ont été annulés ces prochains jours, les choses rentrent doucement dans l'ordre. Pour l'instant, seuls les établissements scolaires demeurent fermés et les classes reprendront demain, mercredi.
En tout cas, la mort d'El Mencho, ça signe un peu le réveil du pouvoir face au cartel à quelques mois de la Coupe du Monde de foot.
Oui, alors la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a affirmé tout à l'heure qu'il n'y avait plus aucun risque et que Guadalajara pourrait accueillir sans problème les matchs de la compétition comme prévu. Effectivement, cette opération des forces armées mexicaines est un symbole du changement de la politique sécuritaire qui a eu lieu au Mexique. Alors que pendant des années, le pays a préféré éviter l'affrontement frontal, eh bien, depuis un peu plus d'un an, cette stratégie ne tient plus. Le gouvernement actuel est beaucoup plus actif. En quelques mois, ce sont des records de saisie de drogue, des laboratoires démantelés. De nombreuses figures importantes des cartels ont été déjà arrêtées. Certains ont été extradés aux États-Unis parce que ce changement de stratégie se fait évidemment dans un contexte où le gouvernement américain met la pression sur le Mexique pour obtenir des résultats. Et on voit avec cette opération et la chute de Dos Equis qui a eu lieu avec l'appui des renseignements américains, ben, on voit que ça montre aussi plus de coopération entre les deux pays.
Mmh. Merci Gwendolina. Romain Lecourt, Grand Maison, et maintenant, qui va succéder à El Mencho ? Son fils est en prison aux États-Unis. Ça va forcément rebattre les cartes. On parle de son beau-fils qui serait responsable de la logistique du transfert de la drogue. Tout ça est bien, bien compartimenté. Hein.
Tout à fait. Alors, c'est très bien compartimenté, mais comme vous l'avez dit, et comme l'a très bien dit la correspondante, il y a une partie de son entourage à El Mencho qui a été décimé par les éliminations de la part du gouvernement mexicain, les arrestations et ensuite les extraditions vers les États-Unis. Donc il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur la succession. Ce qui est certain, c'est que depuis 50 ans maintenant de la guerre contre la drogue, que ce soit au Mexique ou ailleurs en Amérique latine, quand vous décapitez une organisation criminelle, malheureusement les successions se passent assez mal et souvent de façon assez violente. Et je pense que dans le cas de Jalisco Nouvelle Génération, on peut malheureusement s'attendre peut-être à 3 scénarios concomitants. Déjà, une succession autour de El Mencho, donc autour dans son premier cercle, qui va prendre le contrôle de l'organisation. Ensuite, il y a un deuxième scénario dans lequel il peut y avoir des conflits locaux à l'intérieur ou entre les franchises criminelles qui dépendent ou dépendaient du cartel. Et tout d'un coup, le patron n'est plus là. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous continuez de collaborer ?
Et qui vont s'en affranchir peut-être ?
Est-ce qu'elle veut s'en affranchir ? Et ensuite, le troisième scénario d'incertitude, ce sont évidemment les groupes rivaux qui peuvent voir dans la décapitation du cartel une très bonne opportunité d'essayer de saisir des territoires, des actifs, des marchés, etc. Donc on va s'attendre à de potentielles violences qui peuvent durer très longtemps, malheureusement.
Il y a eu 450 000 morts en 20 ans à cause des cartels au Mexique. C'est colossal, on a même du mal à le croire quand on le dit. Est-ce que la mort d'El Mencho, ça peut vraiment changer les choses au Mexique ou pas ?
Non, malheureusement, encore une fois, l'histoire montre que l'élimination des leaders criminels et des grands barons ne change pas grand-chose si les gouvernements, les autorités ne font pas l'effort ensuite d'aller beaucoup plus loin que la réponse purement sécuritaire, c'est-à-dire d'essayer de démanteler l'appareil financier, l'appareil corruptif, les collusions qui peuvent exister entre le cartel et des autorités publiques. Il faut aller là-dedans pour pouvoir démanteler un réseau criminel.
Merci infiniment, merci Romain Lecourt, Grand Maison. Je rappelle que vous êtes chercheur expert pour le think tank Global Initiative.
Merci à vous.
La suite, c'est avec vous Frédéric Saïs et vous remettez le monde à l'endroit.
Et c'est l'une des obsessions d'Emmanuel Macron. L'Europe peut-elle vraiment se passer des États-Unis pour sa défense ?
Mais d'abord, un petit air vintage. Make it all about me. I make it all about me. But Jalen Ngonda, All About Me, un mélange de reggae et de soul sorti l'an dernier, une pépite du prodige de la soul américaine, on se croirait revenu dans les années Motown. Le monde à l'endroit.
How dare you?
World has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Et cette question que vous posez ce soir, Frédéric Saïs, la France est-elle en train de gagner la bataille des idées en Europe?
Avec un peu d'oxygène pour Emmanuel Macron, loin de l'atmosphère politique irrespirable en France, le chef de l'État peut trouver quelques bouffées de réconfort sur la scène européenne. Son idée d'une Europe plus souveraine, plus indépendante des États-Unis fait son chemin. Cet après-midi, l'Irlande a annoncé qu'elle choisissait la France pour construire son nouveau programme de navires blindés, une préférence pour le « Made in Europe », le « fabriqué en Europe », qu'Emmanuel Macron défend depuis 2017, un peu isolé, c'est vrai, face à la plupart de nos voisins qui achètent massivement du matériel américain avec la certitude que Washington est le plus solide des alliés. Évidemment, cette croyance s'est un peu fragilisée ces derniers mois. L'épisode du Groenland et les droits de douane massifs ont refroidi jusqu'aux Européens les plus atlantistes. Tout miser sur Washington par les temps qui courent, c'est prendre le risque de tout perdre. Ou comme le résume l'hebdo britannique The Economist, l'Amérique de Donald Trump redonne ses lettres de noblesse au gaullisme.
C'est ce qu'Emmanuel Macron appelle l'autonomie stratégique.
Oui, l'autonomie stratégique de l'Europe, c'est l'un des domaines où il n'a pas varié depuis 2017, quitte à passer pour arrogant et donneur de leçons, comme le souligne The Economist. Il s'est souvent heurté à un mur, c'est vrai, les pays nordiques, les États baltes se sentaient protégés par le parapluie militaire américain, ils n'avaient pas l'intention de le replier, mais peu à peu, les Européens sortent du déni, ils diversifient leurs achats de matériel, plus seulement venus des États-Unis. Pour ces nouveaux radars, le Danemark, par exemple, a choisi le groupe français Thales. Et puis récemment, 6 pays européens, Allemagne, France, Italie, Pologne, Suède, plus le Royaume-Uni, ont annoncé vouloir développer ensemble des systèmes de frappe à longue portée. Traduction dans des mots plus clairs, l'Europe veut construire ses propres armes et moins dépendre de l'imprévisible allié américain.
Mais il y a encore beaucoup de résistance en Europe.
Oui, parce que décréter l'autonomie stratégique, c'est une chose. La réaliser concrètement, c'en est une autre. Impossible de mettre à la casse du jour au lendemain tous les avions de chasse américains achetés à prix d'or ces dernières années par le Danemark, la Belgique, la Pologne, en tout 13 États européens qui ont fait leur shopping outre-Atlantique. Autre raison à ces résistances, une partie des élites, notamment en Europe de l'Est, estime que la période Trump est une parenthèse, que le président suivant reviendra à la raison, qu'il renouera avec les Européens. Pas du tout, répond Emmanuel Macron. Nous vivons un changement d'époque structurel. Alors certes, ce discours d'indépendance, il est plus facile à tenir pour la France que pour d'autres Européens. Nous sommes les seuls à disposer de l'arme nucléaire parmi les 27. Nous n'accueillons pas de GIs ni de bases américaines, contrairement à l'Allemagne, à l'Italie et à l'Europe orientale. Par ailleurs, quand on parle autonomie stratégique, on pense souvent aux canons, aux missiles qu'on voudrait fabriquer en Europe, mais la dépendance, elle est aussi dans les logiciels, dans les systèmes de communication, dans les constellations de satellites. Et là, malgré toutes les déclarations, l'Europe est encore lilliputienne face aux géants américains, une forme de dépendance moins visible, mais beaucoup plus nuisible.
Merci Frédéric, à demain. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a tout juste 4 ans, plusieurs millions de Russes ont fui leur pays. Et il serait plus de 200 000 à s'être installés à Belgrade, en Serbie, l'un des rares pays d'Europe qui leur est resté ouvert. Ils sont attirés par une politique de visa souple, des liaisons aériennes quotidiennes, sans compter les liens historiques et culturels entre ces deux pays de religion orthodoxe. Beaucoup y ont ouvert des cafés, des restaurants, des entreprises, et tous disent profiter d'une liberté précieuse et d'un accueil chaleureux, même si leur futur reste dépendant de la position géopolitique de la Serbie. La suite, c'est Louis Seyé qui raconte.
C'est devenu l'un des lieux d'expression des artistes russes exilés à Belgrade. Située dans une ruelle du centre de la capitale serbe, la galerie KP Radionica accueille des expositions, des projections et des conférences, mais aussi des cours de langue serbe. Elle a été ouverte l'an dernier par l'artiste-performeuse New Simakina, 34 ans.
Ici, en Serbie, vous essayez de trouver qui vous êtes, pourquoi vous faites de l'art et pourquoi vous êtes là. Mais là-bas, en Russie, depuis 2022, vous cherchez juste à éviter d'être envoyé en prison.
Ce samedi après-midi, une petite quinzaine de personnes au look de hipster s'installent calmement sur les chaises. Au milieu de la salle, New et sa partenaire, en sous-vêtements, se laissent traiter en objet par le public. Une performance a priori impensable dans la Russie d'aujourd'hui.
On explore la liberté du corps. Et il est simplement impossible de faire ce type d'art en Russie maintenant. Du moins, pas comme on le souhaite. Ici, on ne peut pas vous emprisonner pour ça. Vous pouvez juste rester incomprise, d'une certaine manière.
Un sentiment de liberté, c'est ce qu'exprime la plupart des Russes de Belgrade. Depuis 4 ans, ils seraient entre 100 et 200 000 à avoir refait leur vie en Serbie. Résultat, 4000 entreprises ouvertes et une langue russe qui résonne partout dans la capitale. Prof de yoga à Moscou, Katarina a rapidement lancé son studio à son arrivée en 2022. Avec son mari, cette quadra s'étonne encore de la bienveillance et de la simplicité de leurs voisins serbes, loin de l'atmosphère de dénonciation qui règne dans la Russie de Poutine.
Nous avons des voisins qui viennent nous voir et ils commencent à nous parler en serbe, comme si on les comprenait parfaitement, et ils nous racontent l'histoire de leur vie, des choses profondes, genre « mon mari m'a quitté il y a des années » et ce genre de choses. Et moi je me dis « ok, ok ». Mais après, on comprend qu'ils se sentent libres et qu'ils nous font confiance. Et évidemment, vous avez envie de leur faire confiance, c'est une sensation étrange.
Des vols directs depuis Moscou plusieurs fois par jour, pas de visa obligatoire et des permis de séjour facilement accessibles. Ces avantages ont convaincu Anton de choisir la Serbie comme refuge. Ce jeune prof de mathématiques s'est caché pendant plusieurs mois afin d'échapper à une armée qui le terrorise.
Comme j'ai moins de 30 ans, j'ai l'âge de la conscription en Russie. Ils ont donc tout à fait le droit de m'enrôler dans l'armée régulière. Donc pour moi, il est hors de question que je rentre en Russie tant que la situation n'aura pas complètement changé. Mais je ne crois pas que ça changera.
Si beaucoup de Russes se projettent sur le long terme, pour d'autres, la Serbie reste une parenthèse. Les jeunes, et notamment ceux actifs dans les nouvelles technologies, se redirigent souvent vers des pays perçus comme plus stables. Avec sa compagne, Anton espère obtenir un visa pour l'Allemagne.
C'est à cause de la situation politique très instable ici. Le gouvernement serbe essaye d'être ami avec la Russie, avec l'Union européenne, la Chine et presque tout le monde. Nous n'avons donc pas encore pris de décision, mais peut-être que nous allons repartir ailleurs.
École, commerce, scène culturelle, l'arrivée massive des Russes a déjà profondément modifié le paysage socio-économique de Belgrade. Mais leur avenir reste dépendant des évolutions politiques, tant en Serbie qu'au niveau européen.
Un reportage de Louis Seyer à Belgrade pour France Inter. Pour aller jusqu'à 19h, l'actualité sous les radars. Qu'avez-vous repêché, Guillaume Audin ?
Sous les radars et sur les pistes sorties des Honky Tonk Women. On écoute de la country ce soir et on danse.
Ah oui, carrément.
Voilà, on va danser.
Et Caroline, au pays des 27, je sens qu'on va moins danser.
Ouais, 4 ans de guerre en Ukraine, le pays veut rentrer dans l'Union Européenne, mais quand et comment ? Eh bien, il faut demander à Benoît, il travaille sur ces dossiers-là.
Allez, pour l'instant, on passe par le Mali avec Abou Diarra et sa chanson « Djarabi », ça veut dire « Mon amour », c'est sorti en 2016. Bienvenue sur France Inter si vous nous rejoignez.
Parola, anga shufe parola. Nebe mirila, kanula, ne kanonyo berala. Mirila Javala Jafurunyo Java Manini Debi Fe Nebe Mirila Shirila Thank you.
barola anga dukila barolula nebe mirila sherila
Aboudiara Djarabi, et on peut aussi redécouvrir au passage le clip de cette balade amoureuse avec un couple de danseurs tout en séduction. Sous les radars.
Its terrain is bumpy, a disgusting, never-ending pile of illegal waste.
Nous voilà en Grande-Bretagne, Guillaume, où chaque année, des millions de tonnes d'ordures sont déversées illégalement dans la nature. Les autorités lancent des drones pour attaquer les criminels environnementaux.
Oui, car ces déversements illégaux, c'est un business juteux qui, au Royaume-Uni, porte un nom, le fly tipping, ou comment transformer les déchets en machines à cash. La combine, elle est plutôt simple. Des individus se font passer pour des collecteurs municipaux. Ils sont payés par des entreprises ou bien par des particuliers, puis ils déversent illégalement leurs déchets dans la campagne pour éviter les taxes et les frais d'activité. Chaque année, ce sont environ 4 millions de bennes industrielles qui sont ainsi déversées à la sauvage. 34 millions de tonnes, des montagnes et des montagnes d'ordures disséminées sur tout le territoire britannique. Je vous laisse imaginer le désastre écologique. Le trafic coûte 1 milliard de livres par an au Royaume-Uni. Seulement 200 personnes ont été arrêtées ces dernières années pour crimes environnementaux. Mais grâce à la trentaine de drones de surveillance que les autorités ont déployé, ces chiffres devraient décoller.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido neste sábado pelo primeiro-ministro da Índia.
Voilà un pays qui multiplie les partenariats. Le Brésil de Lula est en pleine offensive commerciale.
Dernier exemple en date avec l'Inde de Narendra Modi, où Lula s'est déplacé avec pas moins de 11 ministres à la clé, un accord historique sur les minerais critiques. Après la Chine, le Brésil possède les deuxièmes réserves mondiales de terres rares, ce nouvel or électronique, si l'on peut dire. En tout cas, des ressources ultra convoitées, on le sait, essentielles pour les smartphones, les panneaux solaires, les voitures électriques ou que sais-je, des systèmes de défense avancée. L'économie brésilienne est encore fragile. Un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pardonnez-moi, l'endettement est important. Plus très loin, des 100% de son PIB. Mais à titre de comparaison, la France est 114%. Donc Brasilia n'a pas de quoi rougir. D'autant que là-bas, le chômage est en baisse et que le pays est sur une trajectoire de croissance. Plus 2,5 points en 2025. Les chiffres viennent d'être publiés. Ils disent du Brésil qu'il est un géant endormi. 13 ans de ça peut-être, mais pleinement conscience de son potentiel économique et géopolitique.
5, 6, 7, 8, heel, heel, toe, toe, heel, toe.
C'est le dernier phénomène du moment aux États-Unis. Il cartonne non pas sur TikTok ou Instagram, mais dans les bars de New York à Los Angeles en passant par Austin.
Voilà, vous savez ce que c'est que le line dancing, Christelle ?
Non.
Vous qui êtes à la pointe de la tendance. Non ?
Il se moque.
Le line dancing, traduction littérale, la danse alignée, en clair, c'est un pas de danse que tout le monde au sein d'un même bar effectue simultanément, comme un seul homme ou comme une seule femme.
Oui.
L'idéal, c'est de porter un gilet, un Stetson et des Santiago façon cow-boy, un peu comme vous. Ce soir, les auditeurs ne le voient pas, mais moi, je leur dis la vérité. Pourquoi ? Eh bien, parce que le son qui accompagne le line dancing, c'est de la pure et dure country music. Elle revit en ce moment ses plus belles heures aux États-Unis. 122,5 milliards de morceaux de country ont été écoutés, téléchargés, rien que l'année dernière sur les 122,5 milliards. J'ai calculé, ça fait un morceau par américain écouté chaque jour. Bon, voilà. C'est vous dire en tout cas le phénomène. Merci qui ? Merci Beyoncé, entre autres, qui a sorti le line dancing des honky tonks, ces bars country qu'on trouve dans les villes du Texas notamment. Aujourd'hui, on line dance à New York ou à Los Angeles et forcément demain à Marseille et à Paris.
Eh bien, merci Guillaume. À demain, je vais m'entraîner au line dancing. Il est temps d'explorer, comme tous les mardis, les coulisses de l'Union européenne.
France Inter, le 18-20.
Caroline, vous ouvrez les portes de l'Europe pour voir qui travaille derrière et parfois ça vous emmène dans des lieux imprévus.
Oui, par exemple, la semaine dernière, j'ai interviewé un banquier. Il s'appelle comment, vous, votre banquier?
Alors, Christelle, moi, c'est une femme, c'est Madame Pichot.
Eh bien, j'adore. Moi, mon banquier s'appelle Monsieur Pigeon. Et il faut l'imaginer qu'il part à Kiev en zone de guerre, évaluer la situation en vue de l'adhésion à l'Union européenne. C'est en gros ce qui est arrivé à Benoît Ménard. Aujourd'hui, il est chef d'unité à la DG élargissement de la Commission. Mais à la base, c'est un auditeur financier breton. Il a travaillé dans des banques privées et puis un jour, longtemps travaillé dans des banques privées, puis un jour, suite à la crise financière de 2008, la Commission a recruté des experts, parmi lesquels donc Benoît.
Le rôle de la Commission, c'était de faire en sorte que les banques qui recevaient de l'argent gaspillent le moins ce soutien pour faire en sorte que l'aide soit la plus petite possible.
Depuis l'année dernière, Benoît ne supervise plus les banques, mais les comptes et les réformes d'un pays, l'Ukraine, pour vérifier que l'argent prêté par l'Europe est bien dépensé.
C'est une aide budgétaire qui est assez massive, mais ce n'est pas, comme on dit en anglais, ce n'est pas un free lunch. On leur demande de faire énormément de réformes.
Alors comment on traduit ça? Sur Internet, je trouve « un repas gratuit, ça n'existe pas » ou « il ne faut pas croire au fromage gratuit ». Et donc, en échange de cette aide financière de l'UE, il y a des demandes de réformes, et notamment sur les questions de corruption.
C'est d'abord et avant tout l'état de droit, le système judiciaire, la corruption.
C'est donc pour accompagner ces réformes que Benoît se rend régulièrement en Ukraine. Il y était il y a quelques semaines et il a accepté de m'envoyer des notes vocales, tellement bien qu'elles m'ont donné envie de proposer à Monsieur Pigeon, mon banquier à moi, de m'en envoyer également.
Oui,
dans le dernier épisode, on entendait Benoît, par exemple, dans un train de nuit, ou arpenter des couloirs des bureaux du gouvernement ukrainien, entouré de sacs de sable.
Je suis en train de rentrer vers mon hôtel, après un débrief avec l'ambassadrice de l'Union à Kiev. Il fait moins froid que ce matin, il ne fait que moins 8. Et excusez-moi, je viens de faillir de tomber parce que je suis en mocassin dans la neige, ce qui n'est pas très malin, je vous l'avoue.
Si vous nous écoutez et que vous avez des moon boots à lui prêter pour la prochaine fois, je lui demanderai sa pointure.
Voilà.
Le lendemain matin, je reçois ceci.
Écoutez, je parle pas trop fort car là, je suis descendu à l'abri à l'hôtel parce qu'on vient d'avoir une alerte pour les frappes russes qui sont en cours. Simplement une partie du parking de l'hôtel qui a été aménagée pour recueillir les gens. Il y a des canapés, des fauteuils, des tables et des chaises, de quoi se faire un café. C'est un petit peu une leçon d'humilité pour nous. Faut pas oublier qu'ils comptent sur notre soutien.
La guerre en Ukraine a transformé le pays et ses habitants, et elle a aussi transformé l'Union européenne et ses fonctionnaires.
Il y a eu, à ce jour, 68 réformes de demandées. Sur les 68, l'Ukraine en a fait 63. Voilà, donc je peux vous dire qu'il y en a 5 sur lesquelles ils sont en train de la mettre en œuvre, mais ce n'est pas encore fait.
C'est lesquelles?
Concrètement, il y a une réforme de l'électricité, une loi sur les déclarations d'intégrité des juges, sur lesquelles l'Ukraine est en train de travailler. Voilà.
Et ça, quand vous arrivez avec votre petit badge européen dans les institutions, dans les tribunaux, comment on vous regarde? Quels sont les échanges? On sent qu'il y a une vraie volonté de faire tous ces changements, ou parfois on se dit « Oh là là, mais l'Europe, vous en demandez beaucoup ?»
Il y a les deux, effectivement. Donc le plan pour l'Ukraine, il est très ambitieux. Mais il est très ambitieux parce que l'Ukraine a l'ambition de devenir un État membre le plus rapidement possible. Et les États membres ont aussi la volonté que l'Ukraine devienne un État membre le plus rapidement possible. Sur certains points...
Bon, tout le monde ne veut pas que l'Ukraine soit membre le plus rapidement possible. Viktor Orban, en Hongrie, bien sûr, tente à coups de sondages et de veto de s'opposer à son intégration par procédure accélérée.
In fine, ce qui va décider de l'avenir de l'Ukraine, c'est les Ukrainiens. Et la société civile ukrainienne est très en faveur des réformes.
Comment vous avez vécu alors la démission de Andrei Yermak? Andrei Yermak, c'est l'ancien numéro 2 du gouvernement, très proche de Zelensky, et qui est soupçonné d'être lié à l'affaire Midas, un système de blanchiment d'argent dans le secteur énergétique ukrainien. Le 15 février dernier, l'ancien ministre ukrainien de l'énergie, German Galushenko, a lui aussi été arrêté. Il avait été perquisitionné dans le cadre de cette même affaire.
Le fait que cet énorme scandale ait été mis à jour, c'était à la fois pas une surprise. Politiquement, c'est effectivement très déstabilisant parce que tous les opposants à l'Ukraine et au soutien de l'Europe à l'Ukraine se servent de ça pour dire « Écoutez, on soutient un régime qui est corrompu ». Mais ça, c'est effectivement quelque chose qu'il y a 5 ans ne serait pas arrivé parce que ces institutions n'étaient pas prêtes pour faire ce travail-là. Et si on a tout mis en œuvre pour avoir des institutions indépendante, avec les ressources nécessaires, etc. C'est pour que ces institutions fassent des investigations et découvrent ce qui se passe. Et c'est ce qu'elles font.
Vous évaluez à combien de temps le nombre d'années avant que l'Ukraine puisse faire partie de l'UE ?
Ah, ça, j'ai pas de boule de cristal. L'Ukraine fait tout en sorte pour être prête juridiquement, je dirais très bientôt, à un horizon de 2-3 ans. Mais toute la question ensuite, elle est politique, ce sera les États membres qui vont décider. Et à chaque fois, dans les accessions, ce qui compte énormément aussi, c'est le contexte géopolitique. C'était le cas dans les années 2000 avec l'élargissement à l'Europe de l'Est, c'était le cas dans les années 80, dans l'élargissement Espagne, Portugal, Grèce, après la fin des dictatures. La question, c'est de savoir si on laisse l'Ukraine devenir une Biélorussie et un État vassal de la Russie. Voilà, donc c'est à l'Europe de décider comment réagir face à ça.
Voilà, on l'entend, Benoît est convaincu par une adhésion rapide, même s'il me disait que ces dernières semaines, les réformes au Parlement ukrainien avaient été un peu ralenties du fait de la crise énergétique.
Et j'ajoute qu'aujourd'hui même, Volodymyr Zelensky a demandé à l'Europe de fixer une date pour l'adhésion de son pays à l'Union. À la semaine prochaine, Caroline, c'est la fin de notre tour du monde pour ce soir. Dans un instant, le journal de 19h présenté par Sarah Mansoura, puis le téléphone sonne. Bonsoir Flore Catala.
Bonsoir à tous.
Rédactrice en chef du 18-20, ce soir, on veut vous entendre, vous les auditeurs, sur la fin de vie, alors que les deux textes sur l'aide à mourir et sur les soins palliatifs sont examinés à l'Assemblée en ce moment.
Robert raconte que son frère est décédé d'un cancer de la prostate et qu'il est atteint du même mal. Il l'a vu souffrir, il ne veut pas vivre la même chose. Il aimerait prendre ses dispositions pour partir avant. Pour lui, il faut proposer l'euthanasie. Emmanuel, elle nous écrit que c'est son père qui est parti des suites d'une longue maladie dégénérative et que quand elle a évoqué la fin de l'acharnement thérapeutique, on lui a répondu « c'est pas la Suisse ici ». 9 jours d'agonie pour mon père, dit-elle, 9 jours de souffrance pour nous et un sentiment d'impuissance. Je déplore l'indignité dans laquelle les patients sont appelés à vivre leurs derniers jours.
Appelez-nous 01 45 24 7000.